Vous êtes sur RTL.
Entre
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Judith Chamla
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. Nous allons passer une heure en compagnie d'une artiste dont le talent se décline au pluriel. Judith Chamla est actrice, chanteuse lyrique. Elle brille au théâtre, au cinéma et en ce moment à la télévision dans la série d'Argent et de Sang. Elle écrit aussi. Elle vient de publier Notre silence nous a laissé seuls, récit des violences conjugales qu'elle a subies et dont elle veut témoigner. Bonjour Judith Chamla.
Bonjour.
Est-ce que vous vous sentez libérée par ce récit ?
Oui, écrire, ça a recréé un espace intérieur immense. C'est vraiment une reprise de pouvoir sur son histoire et sur sa propre vie, ouais.
Alors, votre témoignage, on va longuement en parler dans cette émission, qui commence d'abord par les informations que je vous invite d'ailleurs à commenter avec moi. Tout de suite, le journal. Et d'abord, cette agression Gare de Lyon à Paris, 3 personnes ont été blessées à l'arme blanche. L'une d'elles est gravement atteinte. L'assaillant souffre de troubles psychologiques. Nous serons en direct de la Gare de Lyon. La fin du mouvement des agriculteurs après 15 jours de barrages et de manifestations. Les pionniers du sud-ouest qui rentrent de Paris vont s'arrêter pour un dernier rendez-vous commun à Bergerac où nous retrouverons notre correspondant. L'inquiétante défaite des Bleus en ouverture du tournoi des Six Nations hier soir, 38 à 17 face aux Irlandais au stade Vélodrome. Est-ce grave, docteur ? Le diagnostic de notre spécialiste rugby. Et puis la météo. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Et c'est encore de la douceur ce week-end.
Oui, jusqu'à 21 degrés attendus à Perpignan cet après-midi, 17 à Marseille, 13 à Rennes, 12 à Lille, à Paris, à Bordeaux, 10 degrés à Nancy et Lyon, et puis un grand classique côté ciel, du soleil pour la moitié sud. Sauf que pour le moment, c'est encore assez chargé quand même entre le Bordelais et le Midi Toulousain, et puis de la grisaille au nord. On peut espérer quelques petites éclaircies, notamment vers l'Alsace ou encore vers la Franche-Comté.
Bon, ben voilà, faut aller dans le sud, quoi.
Pour le soleil, oui.
Mais oui. Merci Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
Commençons par cette attaque. Ce matin, Gare de Lyon, à Paris, un homme a agressé 3 personnes à l'arme blanche. Bilan, un blessé très grave, selon le préfet de police de Paris, et 2 blessés plus légers. Gauthier de Lombugard, vous êtes en direct de la Gare de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
L'assaillant a été interpellé. Est-ce que l'on en sait plus sur ses motivations, sur son profil ?
Eh bien, en tout cas, en ce moment, dans ce hall 3, ce hall souterrain, derrière les cordons de sécurité, des agents de la police judiciaire en blouse blanche examinent encore les lieux de l'attaque. Les premiers éléments de l'enquête et les premiers témoignages permettent effectivement d'y voir plus clair désormais. Cet employé de la gare a assisté à la scène ce matin vers 8h.
Je sortais du restaurant du personnel et le monsieur avait un couteau à la main, a frappé les gens. C'était un couteau de cuisine à peu près. Il y a eu 2 personnes touchées et une troisième. Et il n'a pas crié, il n'a rien revendiqué. Et après, j'ai vu les gens courir. Et après, il y a la police qui est arrivée et c'est eux qui l'ont neutralisé.
Parmi les 3 blessés, une personne est toujours dans un état grave. Son pronostic vital reste engagé, selon le préfet de police de Paris. L'assaillant est un Malien, né en 1992, en situation régulière sur le territoire français. Lors de son audition, il a reconnu souffrir de problèmes psychiatriques. Et les enquêteurs ont retrouvé sur lui des médicaments pour soigner des pathologies. La piste terroriste est donc écarté pour le moment, mais il faut rester prudent jusqu'à la fin de l'enquête, nous assure le préfet de police de Paris.
Merci Gauthier du Lombugard, en direct de la gare de Lyon. Après 15 jours de mobilisation, les agriculteurs lèvent le camp. Même la Confédération Paysanne, le seul syndicat qui appelait encore à poursuivre le mouvement, évacue ses 2 derniers blocages à Saint-Quentin-Falavier sur la 43 et puis à la centrale d'achat de Leclerc à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique. Pendant 2 semaines, les agriculteurs se sont serrés les coudes sur les barrages. Difficile de partir sans un au revoir. Ceux du sud-ouest se sont d'ailleurs donné rendez-vous à Bergerac où vous vous trouvez. Denis Grandjou, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors les agriculteurs qui rentrent de Paris sont rejoints par leurs collègues de la région pour un baroud d'honneur.
Exactement. Alors c'est un convoi de 100 tracteurs et autour de moi, on les entend pas encore, mais ils ont tous les yeux fixés, les gens là vers dans le brouillard, parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Il y a à peu près 400 personnes ici sur le rond-point, des familles avec notamment bravo papa, bravo maman. C'est une petite fille qui tient ça avec plein de couleurs parce que ses parents sont partis en tracteur me manifester à Paris. Donc il y a 400 personnes qui attendent donc le convoi. C'est imminent, ça devrait venir. Il y a une trentaine de maires également de Lot-et-Garonne, de Dordogne et également de Gironde qui sont venus pour accueillir ce que tout tout le monde appelle ici les héros, les agriculteurs donc, qui sont partis à Paris. Ambiance très certainement de grandes fêtes. Il y a un banquet qui va être organisé ensuite. Autour de moi, il y a une trentaine de tables avec des grillades, etc. C'est vraiment une ambiance bon enfant. Et on attend donc les héros, entre guillemets, les agriculteurs qui sont partis à Paris, qui devraient revenir ici d'ici 5 minutes environ.
Bon, on est plus là pour déjeuner que pour revendiquer, si je comprends bien, Denis.
En fait, il va y avoir des prises de parole, mais c'est surtout dire. J'ai croisé tout à l'heure un vieil agriculteur qui m'a dit, j'ai jamais, avec les larmes aux yeux vraiment, hein, Nathalie m'a dit, j'ai jamais été aussi fier d'être paysan. J'attends ceux qui ont pris la relève. C'est vrai qu'il y aura pas mal d'échanges, forcément. Et puis, il y a beaucoup de familles, comme je vous disais, qui sont là pour attendre soit un papa, soit une maman, parce que voilà, ça a été un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y aura en tous les cas beaucoup, beaucoup d'émotions ici sur ce rond-point, sur la Nationale 21 à Bergerac.
Merci beaucoup Denis Grandjour, direct de Bergerac. Judith Chemla, ce conflit des agriculteurs là depuis 15 jours qui militent pour pouvoir vivre dignement, vous l'avez suivi ?
Oui, et voilà, il prouve que sans action forte, sans se bloquer, vraiment arrêter la course du monde telle qu'elle est, on ne se fait pas entendre et eux se donnent corps et âme pour nourrir la France entière. Et oui, on doit les écouter, évidemment.
Alors sur ce dossier, ne manquez pas l'émission spéciale proposée par Karine Lemarchand sur M6 demain soir, ce sera juste après le 19h45. Des témoignages, des explications sur cette crise et sur les mesures annoncées par le gouvernement, avec également Virginie Garin, la spécialiste agriculture et environnement de RTL. C'est demain à 20h05 sur M6. Dans un instant, des nouvelles des rugbymen français. Des Bleus, si pâles hier soir en ouverture du tournoi des Six Nations, balayés 38-17 par les Irlandais. A tout de suite.
Le journal inattendu.
Judith Chemla, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Judith Chemla et Nathalie Renaud.
C'est encore un coût supplémentaire porté au pouvoir d'achat des Français. Une nouvelle hausse du prix du gaz est annoncée pour le mois de juillet. Elle est liée à l'augmentation du tarif des réseaux de distribution. Pour le consommateur, eh bien, ça devrait représenter une hausse de 5,5%. Et ça s'ajoute à l'augmentation de près de 10% du coût de l'électricité qui est entrée en vigueur le 1er février pour près de 20 millions de foyers. Difficilement supportable pour certains. Cathy, par exemple, elle est jeune retraitée à Saint-Quentin dans l'Aisne. Depuis 2 jours, elle a tout simplement décidé de couper son chauffage par peur de ne pas réussir à payer sa facture.
Moi, j'ai un peu calculé ce que ça allait me faire, hein, puisque je vous ai dit que rien que sur le mois de décembre et le mois de janvier, j'en ai pour plus de 400 euros. Hein, j'ai 1030 euros de retraite. Là-dessus, il faut que je déduise un loyer, des charges. C'est indécent. Moi, je trouve que c'est indécent de nous augmenter. J'ai passé ma vie à soigner des personnes, à faire la toilette, à être bienveillante pour les rassurer. Eh bien, moi, je me retrouve sans chauffage. Je ne dis pas que j'ai un truc de plus que les autres. Je dis que j'ai quand même fait mon métier très correctement. Et voilà, je trouve ça injuste. En ce moment, je ne peux pas et manger correctement et me chauffer correctement. Donc, il faut bien que je fasse un choix.
Un témoignage recueilli par Emmanuel Michel. Vous voulez ajouter un mot ?
Non, c'est catastrophique pour beaucoup de personnes en France, partout. Enfin, voilà,
effectivement, on entend des cris de colère et de désarroi. L'actualité à l'étranger, le Chili en proie à de violents feux de forêt dans des régions touristiques, notamment la station balnéaire de Viña del Mar dans la région de Valparaiso. Les secours craignent un bilan d'une dizaine de morts. L'état d'exception a été décrété dans le pays qui subit une canicule liée au phénomène El Niño. Et puis un mot de cette manifestation de femmes de soldats russes combattant en Ukraine. Elles se sont rassemblées sur la place Rouge à Moscou pour réclamer le retour de leur mari. Et à cette occasion, 20 à 25 journalistes, dont des reporters étrangers et notamment un vidéaste de l'AFP, ont été interpellés. Le sport. Les rugbymen français faisaient leur grand retour hier soir après leur quart de finale malheureux au Mondial de l'automne dernier. Des Bleus opposés à un adversaire de taille, l'Irlande, au stade Vélodrome à Marseille, dans le premier match du tournoi des Six Nations. Et c'est un retour raté. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour Nathalie.
Alors non seulement les Bleus sans Antoine Dupont qui prépare les JO ont largement perdu 38-17, mais on ne les a jamais sentis en capacité d'inquiéter les Irlandais.
C'est vrai, le plus inquiétant, c'est que l'on pensait l'équipe de Galtier à l'abri d'une telle déconvenue. Il faut rappeler que le 15 de France a encaissé hier soir 5 essais. Il n'a jamais ou très rarement pu rivaliser, s'opposer à la patte irlandaise de ce match. Cette récitation du 15 du trèfle, pas toujours spectaculaire, mais terriblement efficace. Une gifle que l'on ne peut pas seulement expliquer par le fait que le 15 de France a joué à 14 après une demi-heure de jeu. Non, le mal est plus profond. L'absence d'Antoine Dupont, oui. Mais pas seulement. Le 15 de France s'est éloigné hier soir de ses racines, cette faculté de création qui l'a rendu redouté et redoutable aux quatre coins de la planète ovale. Alors les joueurs se sont donné rendez-vous lundi à Marcoussis pour que chacun puisse s'exprimer. Fabien Galtier, si fier de pouvoir répéter que son équipe s'appuyait jusque-là sur 80% de réussite, doit lui aussi se poser les bonnes questions. Sa méthode est loin d'être infaillible, comme il aimait le laisser penser avant la Coupe du Monde.
Oui, tout ça, ça fait peur. Il va falloir refermer la cicatrice du Mondial, Jean-Michel. Est-ce que le prochain rendez-vous des Bleus va le permettre ?
Il faut l'espérer, mais c'est un rendez-vous en terre dangereuse, puisqu'il faut se déplacer samedi après-midi à Murrayfield. Les Écossais savent parfaitement bien jouer au rugby, connaissent toutes les qualités et aussi les défauts du 15 de France. Ce sera déjà le match du rachat, alors que l'on pensait que c'était une route tracée vers un possible grand chelem.
Merci Jean-Michel Rascol du service des sports depuis Marseille. Et précisons qu'Antoine Dupont jouera aujourd'hui, mais avec son club de Toulouse à 21h face à Bayonne en top 14. C'est l'une des 7 rencontres du jour. Et puis le tournoi des 6 nations continue avec Italie-Angleterre à 15h15 et Pays de Galles-Écosse à 17h45. Le rugby, vous suivez, Judith Chemla ?
Oula, pas vraiment.
Et le football, alors ?
Non, mais écoutez, là, je vais pas me lancer dans un commentaire, là, vraiment.
Je vais vous donner des nouvelles du monde du football. Il y avait la 20e journée de Ligue 1 qui a commencé hier soir. Le PSG s'est imposé sans briller à Strasbourg 2-1, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, son 20e cette saison. Le PSG s'envole au classement. Kylian Mbappé, vous connaissez ?
Ah oui, quand même.
Ah, ouf. À suivre aujourd'hui, Rennes-Montpellier à 17h et Nantes-Lens à 21h. À suivre sur RTL, dans RTL Foot avec Eric Silvestro à partir de 20h30.
Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Judith Chemla, c'est l'heure du portrait. Alors si des auditeurs ne vous connaissaient pas, je leur dirais que vous êtes une actrice complète. Comme votre père violoniste, vous pratiquez cet instrument, mais très vite, c'est le théâtre qui vous aimante. Un parcours sans fausses notes, Conservatoire National, puis la Comédie Française dont vous êtes pensionnaire pendant 2 ans, avant de la quitter pour le cinéma. Près de 30 films à votre actif, entre autres Camille Redouble, Le Sens de la Fête, Le Sixième Enfant ou encore Une Vie.
Rosalie, est-ce que Monsieur Julien est le père de ton enfant ?
Oui, mon père.
Si vous vous résignez, vous consentez à ce mensonge.
Je ne peux pas être celle qui fait écrouler tout son monde.
Un rôle qui vous vaut une nomination au César dans la catégorie meilleure actrice. Le cinéma donc, la télévision, vos grands yeux illuminent actuellement la série d'Argent et de Sang sur Canal+. Mais jamais vous ne vous éloignez des planches pour jouer, pour chanter et souvent les deux à la fois, comme dans Tue-tête, le spectacle que vous avez écrit. Votre voix de cantatrice vous a même conduite au cœur de Notre-Dame en plein Covid en avril 2020. Vous participez alors à la célébration du Vendredi Saint avec cet Ave Maria. Votre voix, on l'entend aujourd'hui pour une toute autre raison. Vous avez dénoncé les violences que vous ont fait subir 2 compagnons, les pères de vos enfants. Ce récit est devenu un livre. Notre silence nous a laissés seuls. Un témoignage de la prison mentale dans laquelle une femme peut se laisser enfermer parce qu'elle croit que c'est la dernière fois, parce qu'il y a des excuses après les coups, parce qu'elle a peur. Aujourd'hui, la peur, vous l'affrontez avec vos mots et l'on vous souhaite que la douceur vienne la remplacer. Merci. Un peu de Schubert pour apporter de la douceur. Un mot de musique d'ailleurs, le public vous connaît comme actrice. Mais savait-il que vous aviez cette voix ?
Ceux qui viennent au théâtre ou au concert, oui.
Le chant lyrique, c'est une passion ?
Oui, bien sûr. C'est une grande, grande partie de ma vie. C'est vraiment le moment où je me sens le plus complète, le plus reliée au monde.
Alors comment une femme comme vous, animée par la passion du jeu, par la passion du chant, une femme libre, a-t-elle fini par tomber dans les griffes d'hommes violents ? Cette femme, c'est vous, Judith Chemla, et vous nous répondez dans un instant, dans votre journal inattendu.
Le journal inattendu de Judith Chemla avec Nathalie Renaud sur RTL.
Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Judith Chemla, vous venez de publier un récit autobiographique, Notre silence nous a laissés seuls, dans lequel vous racontez les violences que vous avez subies de la part de deux anciens compagnons, les pères de vos enfants. Tout a vraiment commencé médiatiquement en 2022, lorsque vous publiez sur Instagram une photo de votre visage tuméfié. S'en suivent des interviews. Est-ce que ce livre, c'est une manière d'aller au bout de la démarche ?
Oui, parce que, la publication de cette photo, c'est un mouvement très, très instinctif de remettre les choses à l'endroit, parce qu'on... Voilà, l'oppression est trop, trop forte, ce retournement de responsabilité de quelqu'un qui se fait passer pour une victime, donc se permet de voir seler, malgré des conditions de sursis, tout ça, une condamnation. Tout d'un coup, c'est le seul moyen que je trouve de dire stop, la réalité c'est ça. C'est que là, tu devrais me laisser tranquille et
c'est toi essayer qui l'as frappé, c'est pas l'inverse.
D'obtenir une rédemption, quoi. Mais voilà, c'est pas... C'est stop, voilà le réel. Et après ça, ce qui se passe, je ne l'ai pas du tout prémédité, c'est que je reçois des témoignages par centaines, quoi, de femmes qui sont dans une situation similaire, voire bien pire, et qui me remercient de prendre la voix, parce qu'elles n'ont plus de voix. Et c'est bouleversant pour moi, ça me relie au monde d'une façon nouvelle et qui me change à jamais. Et je décide d'assumer ma parole une fois dans les médias avec Léa Salamé sur France Inter. Et puis je refuse tout le reste pour pas m'étaler. C'est pas le moment pour moi. Je suis encore... ça nous met tous en danger, quoi, de s'exposer à ce point. C'est pas le moment. Je veux pas. C'est pas mon but de m'étaler dans les médias. Mais il faut que j'assume cette prise de parole. Donc je le fais une fois. Et puis il y a une éditrice qui me contacte, qui sent que dans ma voix, il y a beaucoup encore à dire, à comprendre, voilà. Et je sens que c'est juste, mais je peux pas dire oui tout de suite. C'est trop dur, ça fait trop peur. Et j'accepte sa proposition au bout de 6 mois. Enfin, je commence et puis je sens que ça va être c'est trop risqué en fait. C'est trop risqué de se mettre en lumière à ce point quand on a des liens familiaux. Avec les pères de ses enfants, c'est beaucoup trop risqué. Mais comme la machine judiciaire à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance avec certains, avec des juges, avec certains policiers, mais tout d'un coup, un policier me menace, comme je vois autour de moi tant de mères qui sont criminalisées à la place des violents conjugaux, quoi, à qui on retire la garde de leurs enfants.
Et ça, c'est le déclic ?
Voilà, ça, c'est le déclic. Je vois que... En fait, il y a une chape de plomb sur nous, sur celles... Il y a quelques hommes aussi qui se battent contre la violence, mais c'est surtout des femmes dont je reçois les témoignages par centaines, qui sont empêchées et d'obtenir protection et de protéger leurs enfants. Et il y a des situations où, la chaîne judiciaire s'instrumentalise au profit des agresseurs et c'est énorme, c'est un fléau. Et là, je dis, c'est plus possible, j'ai une voix qui porte, moi, on m'écoute un peu, les autres, on ne les écoutera pas.
Donc
je prends, je sens la nécessité de revenir sur mon histoire et de raconter comment je me réveille, moi, personnellement. Et j'invite, la grande question, c'est moi qui ai mis tant de temps à me réveiller, combien de temps la société va mettre ?
C'est ce que j'allais vous dire, ce qui est intéressant dans votre récit, c'est la progression insidieuse. D'abord de la violence dans votre quotidien, parce qu'elle n'arrive pas tout de suite, et puis elle arrive par petites touches, et puis elle est physique, mais elle n'est pas que physique, mm-hmm. Elle est verbale
aussi.
Oui. Et puis, c'est également de savoir quand est-ce que votre compagnon sera violent ou pas. Donc vous vivez finalement dans une angoisse permanente.
Bien, je dirais pas ça. Et je pense que c'est ce qui nous piège beaucoup, c'est que ça va mieux. Il y a plein de moments formidables.
Il y a des moments où ça va,
évidemment,
et des moments où ça va pas.
C'est ça. C'est aussi ce qui nous,
ça apporte de l'oxygène.
Qui nous chevilles, enfin qui nous menotte, c'est que il y a plein de belles choses. Mm-hmm. C'est ça qui est difficile. C'est que on s'appuie sur les belles choses. Moi, je suis d'une nature où je veux voir que le beau. Je ne voulais voir que le beau, que ce qui allait. J'ai une nature très très confiante. Donc j'avais une grande confiance dans l'évolution des choses et on est beaucoup à se faire piéger comme ça, à ne pas savoir que l'intolérable, une fois qu'il est commis, il va recommencer quoi.
Et dans le livre, on comprend que donc vous avez un premier compagnon que vous nommez le prince, puisque vous ne nommez jamais, vous ne donnez jamais le nom des pères de vos enfants. Et puis vous le quittez et vous vous mettez en ménage avec un second compagnon que vous dénommez le loup. Comment est-ce qu'on passe d'un homme violent à un autre homme violent ?
Alors, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ça paraît fou, on se dit « Ah bah, quand même, elle est bien responsable de se retrouver dans des situations pareilles. » Mais en vrai, c'est tellement fréquent que les femmes soient avec deux hommes violents, trois hommes violents, parce que c'est un cercle, en fait. C'est un cercle de relations où, bah, quand on a été blessé dans son estime, dans sa dignité, il y a quelque chose qui a entamé dans votre être et qui se sent. Enfin, les hommes qui se permettent d'abuser de leur pouvoir sur les
autres. Ils ressentent cette faiblesse-là ?
Oui, c'est instinctivement. On sent bien que bah, il y a une permissivité qui est là, quoi. Il y a aussi beaucoup dans les natures des femmes que j'ai rencontrées, une grande capacité de lumière, de confiance qui fait que on croit toujours que
ça va aller mieux.
Que ça va aller mieux. Et il y a une chose qui n'est pas. Qui est, moi, en tout cas, il me manquait le sens du danger. Vraiment, j'avais jamais peur. J'avais une telle confiance, une telle foi que je mesurais pas la. Je voulais pas voir ce qui était pas beau, en fait.
Les enfants, c'est aussi une question, puisque parler des violences, c'est casser une famille et il y a des enfants au milieu des parents. Est-ce que ça vous a posé un problème, ça ?
Ouais. Mais je veux revenir quand même sur votre première question. C'est que je pense que tant qu'on n'a pas mesuré la gravité de ce qu'on a enduré, on ne peut pas sortir du cercle. On ne peut pas passer au cercle suivant, supérieur. On ne casse pas le moule, en fait. Tant qu'on n'est pas revenu en profondeur sur les mécanismes. C'est pour ça que j'écris ce livre, pour en sortir définitivement. Et par rapport aux enfants, oui, vous...
Bah oui, parce que vous dites que c'est difficile de sortir de ce cercle, parce que d'abord, il faut en avoir conscience, on est dans un cercle de violence.
Oui, oui.
Et puis, quand on a des enfants au milieu d'un couple, c'est d'autant plus difficile, j'imagine.
C'est très dur, et puis on a évidemment ce mythe de l'unité familiale qui est sacré, quoi, qui est au-dessus de tout, qui représente le bonheur dans nos sociétés. C'est la représentation de l'idéal, la famille. C'est très prégnant. Donc on est tous très, très, très conditionnés par ça. Casser une famille, tant que c'est pas catastrophique, on ne le fait pas. Il faut qu'il y ait des choses irrémédiables pour qu'on ose le faire. C'est très, 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 très dur. Et je pense que c'est justement... Il faut redéfinir l'amour, il faut redéfinir ce qui est premier. Il n'y a pas d'amour sans respect, il n'y a pas de... Et puis, on n'aide pas nos enfants en leur enseignant, en restant à accepter la violence. Pas du tout. Il vaut mieux se construire avec un modèle qui n'est pas du tout l'idéal. Enfin, qui n'est pas
qui
l'unité de la
mais
famille,
qui met
pas
une barrière à la violence.
Mais qui dit, ça, c'est le premier ciment, c'est le respect de soi-même, c'est vivre en paix, vivre avec bienveillance, voilà. Et après, les générations futures pourront se construire mieux. Mais si on ne casse pas du tout ces enchaînements de violence, ces chaînes de violence, on a des générations pourries, quoi.
Alors, dans ce monde de violence, il y a heureusement des éclats de douceur et de bienveillance. C'est ce que vous trouvez notamment auprès de vos amis et de vos camarades de troupe. Et ce matin, on a une surprise pour vous. L'une de vos plus proches, Estelle Meyer, elle aussi actrice, nous a laissé un message pour vous.
On a vraiment eu comme un espèce de coup de foudre où on était comme suspendu de se connaître, de se rencontrer avec une espèce de soif, d'illumination, de joie, de rencontrer peut-être une semblable ou quelqu'un qui te comprend de si loin. Je lui dis bravo, je lui dis que je suis infiniment fière et que son courage libère tous les autres courages qui attendaient de lire d'autres mots, d'autres femmes pour se lever. On la remercie en gratitude absolue, quoi. C'est immense.
Votre réaction ?
C'est une grande amie. J'ai aussi d'autres amis qui m'ont... On s'éclaire la route. Hein. Là où on réussit à aller vers la lumière, on guide aussi nos amis, nos sœurs, nos frères. C'est des liens merveilleux qui nous font grandir, vraiment.
Et ça fait du bien, au moins, cette douceur-là. La douceur, elle vient aussi de la musique, qui fait partie de votre quotidien. Et vous avez choisi de nous faire écouter ça. At last. At last. Et à James, pourquoi ? Rapidement, bien sûr.
Ah, j'adore cette chanson, j'adore cette orchestration, j'adore la plénitude qu'il y a dans sa voix. Et j'aime cet espoir vers un amour tellement solaire. Voilà.
L'espoir dans la voix d'Etta James, c'est juste avant les titres de 13h.
Le journal inattendu de Judith Chemla avec Nathalie Renaud sur RTL.
RTL. RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Judith Chemla.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
À la une de l'actualité, cette attaque au couteau à la gare de Lyon ce matin à Paris. 3 personnes ont été blessées, dont une est en état grave. Le suspect est un homme de nationalité malienne qui vit en situation régulière en Italie. Il a déclaré spontanément souffrir de troubles psychiatriques, selon le préfet de police Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place. Cette attaque ne laisse pas penser qu'il s'agit d'un acte terroriste. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Les autoroutes sont peu à peu débloquées après les blocages d'agriculteurs. Le gestionnaire Vinci Autoroutes signale qu'à midi, une seule manifestation impactait encore la circulation sur l'A10 entre Saint-Mexant et Poitiers. Après 15 jours de mobilisation, certains agriculteurs se sont donné un dernier rendez-vous à Bergerac, en Dordogne, pour accueillir le convoi de retour de Paris. Denis Grandjou, vous les attendiez tout à l'heure dans le journal de 12h30 et ça y est, eh bien ils sont arrivés.
Oui, ils sont arrivés, une ambiance indescriptible vraiment, avec 400 personnes qui ont applaudi, des klaxons, etc. Et juste à côté de moi, j'ai Julien, bonjour.
Bonjour.
Julien, il a fait le voyage, c'est un agriculteur du Lot-et-Garonne.
Oui, c'est ça.
L'émotion donc en arrivant.
C'est exceptionnel. C'est, pour l'instant, je crois qu'on n'a même pas réalisé... C'est fou. Ça, tout le monde a eu la larme à l'œil, je pense.
Il y a beaucoup de larmes, Nathalie, beaucoup d'émotions. Et là, bientôt, donc, le grand banquet qui va être offert gracieusement à tous ces agriculteurs qui ont fait le voyage à Paris et donc qui vont se reposer un petit peu avant de repartir ensuite dans leur exploitation. Merci, merci Julien.
Oui, mais merci. Mais, du coup, ouais, on va faire manger un peu et après, chacun repart, même qu'on voit Jean comme à Marmande. Et on repart travailler un peu.
Voilà Nathalie, ici à Bergerac, donc un peu de repos pour ce long convoi de 100 tracteurs qui vient de s'arrêter sous les applaudissements.
Merci Denis Grandjou. Bon déjeuner avec les agriculteurs et vous étiez en direct de Bergerac pour RTL. Un mot de votre programme sport ce samedi. D'abord, la suite de la 20e journée de Ligue 1 en football. Rennes-Montpellier à 17h et Nantes-Lens à 21h. Hier, le PSG a battu Strasbourg 2-1. Et puis le rugby avec le tournoi Destination. Les Bleus se sont largement inclinés en ouverture hier. Italie-Angleterre, c'est à 15h15. Et puis Pays de Galles-Écosse, c'est à 17h45. La météo, c'est avec vous, Judith Chemla. C'est la tradition du journal inattendu.
Alors, un grand classique météo cet après-midi avec une France coupée en deux. Il fera beau dans la moitié sud du pays, entre La Rochelle et le Jura. Au nord, en revanche, un ciel très chargé et quelques pluies de la Normandie aux Ardennes. Les températures seront comprises entre 7 et 21 degrés des Vosges au Roussillon. Il fera 12 degrés à Paris, Lille, Bordeaux et Chambéry.
C'était la douce voix de Judith Chemla pour la météo. Comme chaque samedi, on part maintenant en mer.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Et nous suivons les aventures de Triana, lancée dans l'Ocean Globe Race au cœur de la troisième étape de cette course autour du monde sans assistance et sans électronique à bord entre le Cap et l'Amérique du Sud. Bonjour Jean.
Bonjour à tous.
Vous êtes au bout du bout du bout.
On est au bout du bout du bout, oui, effectivement, puisque c'est tout l'océan Pacifique Sud. On vient de passer ce qu'on appelle le point Nemo, le point des océans sur le globe le plus éloigné de toute Terre. La Terre la plus proche est à peu près à 2000 milles, c'est-à-dire un peu moins de 4000 kilomètres. Et encore, ce sont des îles caillouteuses inhabitées. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu isolé, un peu au bout du monde. Surtout, on a envie qu'il nous arrive rien, puisque là, dans ces endroits où personne ne va jamais, il n'y a aucun secours possible. Donc on ménage beaucoup le bateau et l'équipage.
Ça veut dire que vous ralentissez volontairement votre bateau ?
Oui, exactement. On est très prudent. Il y a dans ce Pacifique une houle très longue qui rend le bateau difficilement maniable. Donc on sort de 3 jours assez difficiles. Il y a toujours énormément de vent, quelles que soient les saisons. C'est toujours la mer qui vous laisse passer et jamais l'inverse.
Alors la semaine prochaine, vous nous raconterez le franchissement du mythique Cap Horn.
Voilà, exactement. C'est le mythe et le rêve absolu pour tout marin et qui vous donne droit dans la tradition maritime de pisser au vent, ce qui est un aboutissement absolu pour tout marin. Voilà. Donc, ça c'est pour le clin d'œil, mais c'est une étape extraordinaire pour l'équipage et pour toute cette course que de passer le Cap Horn, et on y est presque.
Merci Jean, au revoir et à la semaine prochaine.
Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Judith Chemla, témoignez des violences que vous avez subies, racontez votre histoire. Vous le faites aussi pour les autres femmes, comme en témoigne d'ailleurs le titre de votre livre, « Notre silence nous a laissés seules ». Alors comme chaque samedi, Mathias Luguin est avec nous. Bonjour Mathias.
Bonjour Nathalie, bonjour Judith.
Bonjour.
Le livre de Judith Chemla s'inscrit dans une liste de récits, de personnalités qui ont raconté pour dénoncer. Je pense à Camille Kouchner dans « Familia Grande » sur l'inceste, à Vanessa Spingora dans « Le consentement » sur ses relations avec Gabrielle Matzneff alors qu'elle n'avait que 14 ans. Comment ces témoignages de personnalité font-ils bouger les lignes, Mathias ?
On peut dire que ce grand mouvement de libération de la parole, aussi progressif soit-il, eh bien, il débute véritablement en 2017 avec l'affaire Weinstein. Souvenez-vous, ce scandale autour des multiples agressions et harcèlements sexuels commis par le producteur américain tout-puissant Harvey Weinstein. C'est la montée en puissance du hashtag MeToo et la libération de la parole qui va ne faire que s'étendre. Dès lors, on entend de plus en plus de témoignages autour de ces violences de l'intime, sexuelles, conjugales, l'inceste également. Et au-delà de cette libération de la parole, un besoin de se libérer tout court. Écoutez Sophie Charnavel, la directrice des éditions Robert Laffont.
On se replonge dans une histoire qui est une histoire douloureuse. Donc ça veut dire qu'on la revit à nouveau pour la mettre par écrit. C'est pas évident, mais c'est aussi pour justement régler ses comptes avec ce qui s'est passé, avec sa part de responsabilité aussi dans comment on se retrouve dans cette histoire-là. C'est aussi une manière de se réapproprier son histoire pour pouvoir justement peut-être passer à autre chose, en tout cas qu'il n'y ait peut-être pas des répétitions dans son histoire comme on peut l'avoir.
Judith, c'est en ayant en tête cette logique de catharsis que Sophie Charnavel s'est rapprochée de vous, parce que c'est elle, votre éditrice, elle a découvert votre histoire un peu par hasard à la radio, ça vous nous l'avez dit tout à l'heure, et elle la raconte, elle, de son point de vue.
J'écoutais avec les écouteurs. J'ai été parcouru de frissons d'entendre sa voix, d'entendre la densité de son témoignage. Au-delà d'une histoire individuelle, c'est une histoire assez universelle, malheureusement, j'allais dire. Et c'est aussi dans la réaction de la société, ou en tout cas son manque de réaction, que, en tout cas, moi, je me suis dit qu'il y avait un sujet là qu'il fallait raconter. Elle m'a tout de suite dit qu'elle considérait que ça l'avait sauvée, en tout cas que c'était une respiration indispensable dans le combat qu'elle menait par ailleurs, elle, dans son histoire, en fait.
La directrice des éditions, Robert Laffont, qui souligne également l'importance de la prise de parole publique des personnalités pour faire bouger les choses.
Je pense que de se dire telle femme qui a un peu d'argent parce qu'elle travaille, etc., à elle aussi, ça lui est arrivé. Ça permet aussi peut-être de déculpabiliser certaines femmes qui pensent qu'elles sont les seules victimes. Le but à atteindre, c'est que ça brise des tabous, qu'on puisse en parler et qu'on se dise « Ok, maintenant ça suffit en fait ». Que le système, de manière globale, puisse s'en emparer. Il y a d'abord une libération de la parole, et pour que les faits s'en suivent et qu'il y ait des conséquences, il va falloir un petit peu plus de temps. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas faiblir.
Ne pas faiblir, continuer de parler, de s'exprimer, bien que ce soit évidemment difficile, c'est nécessaire pour les autres. Et c'est parce qu'il existe des portes étendard, un peu comme vous, Judith Chemla, que ce progrès est en marche.
Merci Mathias Luguin.
Merci.
On vient d'entendre votre éditrice. Effectivement, ce témoignage, vous l'avez écrit pour vous, mais aussi pour les autres.
Oui. Bah, c'est beaucoup la conscience que je suis, moi, écoutée alors que tant sont maintenus dans le silence et l'oppression, et dans l'intime, et aussi avec les institutions qui, souvent, pas toujours, hein, mais jouent la stratégie de l'agresseur ou sont... comment dire, inféodé à cette stratégie-là sans vraiment s'en rendre compte. Je me suis sentie et une responsabilité et une... Enfin, voilà, je me suis sentie le droit de le faire.
C'est très difficile de sortir de l'engrenage de la violence. Vous nous en parliez tout à l'heure. C'est très difficile de savoir à quel moment partir parce que, vous le disiez, vous aviez toujours l'espoir que ça aille mieux. Mmh. Et vous disiez aussi, quand on a échangé tout à l'heure, que si vous aviez, vous, eu des témoignages, ça vous aurait aidé.
Oui. Moi, je pense que si j'avais été plus informée, plus cultivée sur l'histoire des femmes et de comment elles ont gagné leurs droits à travers l'histoire, comment sans cesse leurs droits ont et un peu évolué, puis reculé, puis comme on n'a pas tout... Enfin, je veux dire, dans la langue française, ça n'a pas toujours été le cas que le masculin l'emporte sur le féminin. Toutes ces structures... ces arcanes qui nous tiennent comme ça sous le joug d'une oppression. Moi, je m'en rendais pas du tout compte. Je croyais complètement au récit de l'égalité des sexes. Je me croyais complètement libre et capable et puissante. Et je l'étais, mais on me l'a fait payer quand même. C'est ce sentiment de liberté. Et j'ai vu que tout n'était pas du tout gagné, qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire.
D'autant plus que les agresseurs, souvent, sont dans le déni. Je vous cite, je vous lis, page 248. « Le déni est destiné à vous rendre fou. C'est une violence parfois pire que les coups.
Oui. »
Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile de lutter contre le déni parce que c'est un cercle infernal, en fait, dans lequel vous êtes enfermé.
C'est une grande, grande violence parce que c'est comme dans les dictatures. Enfin, je veux dire, il y a la dictature de l'intime et ça se rapproche parce que c'est vraiment une violence faite à la parole, à la pensée. On n'a pas le droit de penser. On n'a pas le droit de quand on ne dit pas, ça n'existe pas. Et ce que se racontent les agresseurs pour pouvoir tenir psychiquement, pour pouvoir se regarder en face, c'est qu'en fait, soit ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas de preuves, soit ça minimise et ça vous remet la responsabilité dessus. Et c'est une inversion de la réalité. La perversion, c'est ça, hein, c'est inverser. C'est ça que ça veut dire, c'est inverser les choses. Et ça rend fou, en fait, parce qu'on vous dit, parce que tu dis, c'est faux.
Et ça fait partie de la violence. Et du
ça, c'est une grande, grande violence, parce que ça vous fait perdre pied, ça vous rend fou. On dit, mais si, pourtant, ça, c'est un acte. On dit, non, mais c'est toi qui es folle, là. Mm-hmm. Pas du tout, je rentrerai pas dans ta folie. Et tu te dis, mais c'est tout à l'envers.
Ce déni, on va continuer d'en parler, mais je voudrais vous parler d'une chanteuse, la plus citée aux Victoires de la musique, avec 5 nominations. Mm. Je veux parler de Zao de Sagazan. Elle chante, elle aussi, les violences faites aux femmes. Vous avez souhaité l'écouter.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est...
Les dormantes, alors comment lutter contre ces violences? Nous poserons la question à votre invitée Judith Chemla, c'est dans un instant dans le journal inattendu.
Les plus beaux amoureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau...
Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Avec l'actrice Judith Chemla qui vient de publier un livre « Notre silence nous a laissés seuls », nous continuons de parler des violences faites aux femmes avec ces quelques chiffres. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. L'an passé, on a totalisé 94 féminicides contre 118 en 2022. Une baisse de 20% qu'on ne peut quand même pas saluer parce que 94, c'est encore beaucoup trop. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février. Et bien, depuis le 1er janvier, 14 femmes ont été tuées par leur conjoint. Judith Chemla, vous avez souhaité inviter ce matin Titiou Lecoq dans cette émission. Titiou Lecoq, journaliste, écrivaine, blogueuse qui a beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes. Elle est en direct avec nous. Bonjour Titiou Lecoq.
Bonjour.
Judith Chemla, vous voulez saluer Titiou Lecoq ?
Oui, bonjour Titiou. Je pense que si j'avais lu le livre de Titiou Lecoq, Les grandes oubliées de l'histoire, comment les femmes ont été effacées de l'histoire, je n'aurais pas été la même personne. Je ne suis plus la même personne après avoir lu son livre.
Oh merci, c'est adorable.
Vraiment.
Titiou Lecoq, vous avez beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes, sur l'égalité des sexes, sur les féminicides aussi. Comment sortir de l'enfer de la violence? C'est toute la question et ça n'est pas si simple. Est-ce que partir au premier acte de violence, c'est facile?
Alors, avant de m'intéresser vraiment au sujet des féminicides, je n'y connaissais rien. Et j'avais cette idée de quand une femme a subi une violence, il faut lui dire de partir, quoi. Faut qu'elle parte tout de suite. Et en fait, à rencontrer les associations d'aide aux victimes, etc., voir les mécanismes qui se mettent en place dans ces moments-là, on se rend compte que les femmes, c'est au moment où elles partent qu'elles sont le plus en danger.
Oui.
Et donc, on ne peut pas juste leur dire « partez », parce qu'en fait, il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'irresponsabilité là-dedans, de qu'il faut un départ, ça se prépare, et surtout, ça se prépare en sécurité.
Ça veut dire...
Évidemment, la société a un rôle à jouer là-dedans.
Oui, ça veut dire que les femmes qui sont victimes de violences, il faut qu'elles contactent des associations, qu'elles s'entourent pour pouvoir quitter le compagnon violent.
Exactement, et vraiment sur le travail. Moi, j'ai subi pendant 3 ans les féminicides et c'est vraiment le cas le plus fréquent. C'est justement parce qu'elles venaient de le quitter qu'ils passent à l'acte.
À partir de quand faut-il partir? J'ai envie de vous poser la question à toutes les deux d'ailleurs.
Bah, c'est justement, enfin, chaque cas est particulier. Chaque femme va déjà, il faut s'en sentir capable. Faut retrouver un minimum ses forces, un minimum d'estime de soi pour se sentir le droit de vivre une vie meilleure. Déjà, s'accorder cette place là et voilà, il faut, comme le dit Titiou, s'organiser. Et j'ai pas de leçon à donner en disant tu dois partir à tel moment. Il faut avoir, je pense qu'il s'agit aussi de remettre des barrières intérieures, se dire là quand ça s'est franchi, c'est vraiment grave. Il faut et je pense que c'est en étant plus informé que nos barrières, nos protections intérieures se remettent aussi, le radar se remet en place parce qu'il est détruit souvent. Mm-hmm. Nos sens sont détruits, réduits à néant, donc on n'arrive plus à penser, plus à sentir.
Titiou Lecoq, j'irai un peu plus loin. Les femmes gagnent 75% de moins que les hommes actuellement. Est-ce que l'égalité salariale, l'égalité dans les tâches familiales, dans la charge mentale, c'est aussi une porte de sortie des violences?
Oui, alors quand j'ai travaillé sur le sujet du couple et l'argent, je me suis rendu compte que dans ce qu'on appelle le continuum de violence, c'est-à-dire que oui, il y a des gradations dans les violences, mais en fait, elles trouvent une même origine. Mmh. Les violences économiques sont vraiment fondamentales. Et les femmes ont déjà beaucoup de mal à identifier qu'elles sont victimes de violences physiques. Et alors les violences économiques, elles passent complètement sous les radars. Et pourtant, c'est aussi ce qui va les empêcher de partir. Très concrètement, le fait d'avoir un compte en banque à son nom, d'avoir des revenus, d'avoir le bail qui est à son nom pour le logement, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes d'avoir. Donc, il est évident que la question de la domination, elle va se jouer sur tous les niveaux, sur le fait d'être en charge des tâches ménagères, ça veut dire qu'on est celle qui reste à la maison. Et donc il y a une forme de prison aussi qui peut se mettre en place là-dessus. Oui, mais tu dois rester à la maison parce qu'il faut que tu t'occupes des enfants. Moi, je vais dehors, je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Et donc il y a un schéma là-dedans qui se met en place d'emprisonnement.
Je vous propose d'écouter l'anthropologue, ethnologue Françoise Héritier parler du rapport entre les hommes et les femmes. C'était en 2009, c'est vous, Judith Chemla, qui nous avez proposé d'écouter cette archive.
C'est pas la nature qui dit que les femmes sont inférieures, c'est la culture. D'accord. C'est ce qui s'est ensuivi de ces séries de réflexions et qui ont contraint les femmes en les privant de disposer de leur corps, en les privant de l'accès au savoir et en les privant toujours chez nous de l'accès au pouvoir et en accompagnant tout cela d'une situation qui est celle du mépris, de la condescendance, etc. Et que l'on voit à tous les coins de rue. Il suffit d'ouvrir les yeux simplement sur ce qui se passe dans la rue, les affiches et le reste et les discours qui sont tenus. Et bien c'est tout cela à quoi nous sommes confrontés. Et je dis que c'est le problème politique majeur parce que les autres formes de domination, elles ont pris modèle sur celle-là. C'est celle-là la plus ancienne, la primitive, et les autres se sont calquées dedans.
Je vous vois acquiescer, Judith Chemla.
Mm-hmm. Bah oui, c'est très intéressant, mais je laisse Titiou.
Titiou, vous voulez réagir ?
Oui, non, mais c'était évident que c'est la première forme de domination qu'on a identifiée. Chose que si un, il faut se rendre compte en fait à quel point notre société à l'heure actuelle en France est construite sur un fond de sexisme et de misogynie, qui souvent est très... Moi, je suis la génération, j'ai grandi, on m'a dit que j'étais à égalité avec les garçons, etc., et que tout était gagné. Mmh. Il a fallu du temps pour me rendre compte que c'était faux, et ce dont Judith aussi, Chemla, témoigne, c'est ce discours de « tu es folle », etc., c'est un discours misogyne. C'est un discours qui va résonner dans notre société parce qu'on ne croit pas les femmes. Et il y a un autre point qui est très important pour moi à aborder, qui est aussi le fait que... pendant longtemps en France, on a considéré qu'un mauvais mari pouvait être un bon père.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est vraiment, dans ces dernières années, c'est très très récent qu'on commence à évoluer, notamment sur les féminicides. On commence à considérer que les enfants qui assistent au meurtre de leur mère sont des co-victimes, alors qu'avant, on ne considérait que pas du tout.
Mais oui, ça paraît presque évident, mais ce n'était pas le cas.
Et c'était pas du tout le cas, c'est vraiment très récent de dire oui, en fait ces enfants sont aussi victimes et en fait un mauvais mari est un mauvais père et cette jonction-là, la loi française a du mal pour l'instant à la faire. Je pense que là on a quelque chose de très concret à gagner.
Judith Chemla, je vois que vous voulez réagir.
Non, oui, c'est terrible. Encore aujourd'hui, on force les enfants. Enfin, on ne retire pas systématiquement l'autorité parentale à un père qui a tué sa compagne ou tenté de tuer sa compagne devant ses enfants. On force les enfants à aller voir leur père en prison. On force les enfants à avoir des visites médiatisées avec un père qui a commis des violences et sur eux et sur leur mère. C'est absurde. On ne laisse pas les enfants se réparer. On ne peut pas imaginer que... Bah oui, enfin, voilà, c'est le père tout puissant, le lien avec le père qui, c'est vraiment patriarcal, quoi, qui passe avant tout, au lieu de se dire, bah, l'enfant, pour se reconstruire après les violences, bah, il a besoin d'un sas de sécurité. Puis, s'il a besoin de voir son parent, oui, peut-être on peut l'écouter, mais écouter d'abord l'enfant, quoi. Et pas se dire qu'on impose ce lien à tout prix, parce que ça serait, c'est l'arcane majeure de nos sociétés.
Est-ce que ça, c'est en train de bouger, Titiou Lecoq ?
Alors, je trouve que oui, c'est en train de bouger sur des choses très concrètes. Par exemple, effectivement, l'autorité parentale des pères qui ont été reconnus coupables de féminicide. Ça y est, ça commence à... les juges les suspendent, les autorités parentales.
Ça commence à peine.
Ça commence, en fait, du moment où les féministes n'ont pas dit « Regardez, là, il y a un problème », on ne s'en occupe pas.
Absolument.
Donc, ça demande aussi beaucoup d'énergie de la part des militantes, des associations, etc., de dire, alors, on est allé regarder dans le détail, il y a ça qui ne va pas dans le système, il y a ça qu'il faut changer, etc. Et c'est pour ça que c'est important aussi que des femmes comme Judith Chemla portent cette parole et la mettent dans les médias, dans le grand public, pour dire, regardez tout ce qu'il nous reste à faire et à conquérir encore.
Absolument. Absolument.
Merci beaucoup Titiou Lecoq d'être venu, d'être avec nous par téléphone, mais d'avoir participé à ce débat important, majeur pour notre société.
Merci Titiou.
Dans quelques instants, Judith Chemla, on va délaisser votre livre pour parler de vos projets, de vos rôles. Avant cela, un peu de douceur avec un tout petit peu de musique. Rachid Taha, que vous avez souhaité écouter, qui va nous apporter un peu de soleil, de sourire.
Ouais. وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي لعباد الغافلين قبلك وقبلي
Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renaud sur RT. Le journal inattendu de Judith Chemla
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Un extrait d'Amadeus de Milos Forman consacré à Mozart, évidemment. C'est un choix qui n'est pas étonnant pour la chanteuse lyrique que vous êtes.
Oui. Oh, mais c'est un grand, grand, grand film qui m'a tellement inspirée, qui est tellement plein de, voilà, de beauté. Et de, c'est tellement intéressant aussi sur le rapport au père, cette figure écrasante. Et puis, cette imagination, ce monde où il conçoit la musique, comment il le filme, comment il entend ce qu'il est en train de composer. C'est tellement beau. Tellement beau ce film.
Je le disais en introduction de cette émission, vous avez une trentaine de films à votre actif. Actuellement, on peut vous voir dans D'argent et de sang sur Canal+, passionnante série sur l'arnaque à la taxe carbone. De quel rôle vous rêveriez actuellement au cinéma ?
Je pense que je vais l'écrire. C'est à moi de l'écrire. Je vais pas attendre qu'il tombe du ciel.
Et vous êtes en pleine écriture.
Vous verrez bien.
Vous avez déjà écrit un spectacle, Tue-tête. Vous en gardez.
J'ai réalisé un court métrage, surtout là avec mes enfants, Yolande Moreau. Là, j'ai été vraiment pleinement créatrice à cet endroit-là, et j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Je parlerai plus de ça que du spectacle qui a été douloureux et dont je parle dans le
éprouvant,
livre.
Éprouvant, effectivement, vous en parlez dans le livre. La violence, vous le dites dans le livre, a coupé votre créativité. Là, vous l'avez retrouvée.
Elle a jamais totalement coupé, parce que j'ai toujours été une interprète, et puis une interprète aussi qui conçoit des projets, donc qui amène des idées, qui a envie de certaines choses très précisément, qui crée des champs de force et tout ça. Elle a toujours été là, mais d'être vraiment en possession de tous mes moyens, oui, ça m'a la violence, elle vous sidère, elle vous empêche
Elle prend de la place, en fait.
Elle vous coupe la chic, quoi. Sûr.
Bon, eh bien, écoutez, on attend avec impatience votre film, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes en écriture.
Écoutez, il y a plein de choses qui arrivent. Là, je vais jouer aussi j'ai voulu interpréter le procès de Jeanne d'Arc, qui sera très musical aussi, qui se jouera au Bouffe du Nord l'année prochaine. Donc ça, c'était très important pour moi aussi d'incarner cette héroïne qui défendra sa vérité jusqu'à brûler, quoi.
Merci beaucoup, Judith Chemla, d'être venue vous raconter dans le journal Inattendu. Je rappelle le titre de votre livre, Notre silence nous a laissés seuls, qui permet de comprendre vraiment l'engrenage insidieux de la violence conjugale. La semaine prochaine, à votre place, il y aura aussi une actrice femme de théâtre, Annie Dupéret, qui joue le duplex au Théâtre de Paris. Un mot peut-être pour elle ?
J'aime beaucoup Annie Dupéret, vraiment.
Une question ?
Une question ?
Ouais, si vous lui laissiez une question.
Ah, une petite question à Annie Dupéret.
Ouais.
Oulala, vous me prenez de
Allez,
court.
Allez, je vous laisse y réfléchir. Pour vous annoncer le programme qui suit, dans un instant, Laurent Deutsch, entré dans l'histoire. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi sur RTL. Pensez à votre question, puis
je la dirai à Sarah, sa fille, que j'aime énormément.
Eh bien voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Judith Chemla. Très bon samedi à tous.